Bonjour à tous. Me voilà encore une fois tout seul dans l'église, dans cette grande salle, pour vous parler encore de la parole de Dieu. Le dernier dimanche, la dernière fois, je vous avais partagé sur les disciples qui ont été considérés comme des gens de peu de foi parce qu'ils avaient peur de la tempête. Ils avaient peur aussi des grandes vagues, alors qu'ils étaient avec le Seigneur dans la barque. Donc j'espère que vous vous rappelez. Si pour ceux qui ne se rappellent plus, vous pouvez écouter le message d'avant. Et dans cette continuité sur la foi, sur des gens de peu de foi, j'aimerais vous partager encore un autre exemple où les disciples étaient encore dans la barque au milieu de la mer, pendant que Jésus-Christ, leur maître, était monté sur la montagne pour prier à l'écart. On voit cette histoire dans Matthieu 14. Et puis vers 3 heures du matin, Jésus va vers eux marchant sur la mer. Les disciples étaient très étonnés, troublés même, en se disant « mais c'est un fantôme !» Et ils avaient tous peur, poussant des cris. Ils se sont dit sûrement « comment un homme pourrait marcher sur l'eau ?» Mais Jésus les rassure en leur disant que c'est lui, c'est Jésus leur maître. Et Pierre, en le voyant, lui dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Devant cette demande, Jésus lui dit « viens. » Et Pierre, sans réfléchir, il saute de la barque pour marcher sur les eaux. Mais cependant, il reprend ses esprits et il commence à voir le vent violent. Il a eu peur. Il s'est dit sûrement, l'homme ne peut pas marcher sur les eaux. Et au moment où il commence à douter, il s'enfonce dans l'eau. Et dit au Seigneur, « Sauve-moi, Seigneur !» Et le Seigneur lui répond, après l'avoir sauvé, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Voilà donc un deuxième cas où on voit le manque de foi. Alors, qu'est-ce que ce peu de foi? Cela signifie plusieurs choses. Pierre pouvait à un moment donné marcher sur les eaux. Je dirais même, il avait expérimenté la même chose que Jésus. Mais à un moment donné, il commence à douter. Il reprend ses esprits cartésiens, plus réalistes. Et ainsi, il s'enfonce dans l'eau. C'est vrai que, bien sûr, nous ne pouvons pas marcher sur les eaux, logiquement. Comme nous sommes destinés aussi à mourir et à disparaître pour toujours. C'est vrai, s'il n'y avait pas de Dieu. Mais la vérité, c'est que Dieu est là. Dieu a créé tout l'univers. Et il a vu le péché des hommes et il a envoyé son Fils pour régler nos problèmes de péché, pour accorder la vie en abondance, la vie éternelle, par le sacrifice de Jésus-Christ. Marcher sur les eaux, c'est de lui faire confiance. Marcher sur les eaux, c'est d'entrer dans ce monde parfois incompréhensible, ou même bizarre, on pourrait dire comme ça. En ce moment, on entend beaucoup, très souvent, ce mot « bizarre ». Oui, nous vivons un moment assez bizarre. Oui, ce mot revient assez régulièrement, dû à ce confinement, vie complètement confinée dans notre maison, chez soi. Mais sachons que les épreuves sont aussi dans la souveraineté de Dieu. Mais que, malgré tout cela, nous devons rester intacts au niveau de notre foi, que notre confiance doit grandir encore davantage. Le Seigneur ici demande à Pierre, pourquoi as-tu douté? Pourquoi tu es revenu dans le passé? Oui, parfois la peur peut être liée avec ce peu de foi, mais aussi les doutes qui peuvent se créer devant parfois les épreuves, devant la réalité, les tempêtes. Il faut aussi savoir, remarquer que Pierre avait marché sur les eaux. Et ce Pierre n'était pas n'importe qui. Il était le disciple favori de Jésus-Christ. Il avait mangé, bu avec lui. C'est quelqu'un qui a aussi connu une expérience incroyable, qui a vécu des choses encore plus que certains disciples. Mais en voyant, même lui, il a douté. Oui, au moment où nous doutons, on peut tout de suite retomber très vite pour que la foi s'estompe, rapetisse. Même si vous aviez expérimenté de grandes choses dans le passé, vous pouvez redevenir quelqu'un de peu de foi. J'appelle ça, c'est le dégringolade spirituel. Ça peut arriver, même à des grands hommes comme l'apôtre Pierre. Cependant, il y a des gens qui ont été appelés comme quelqu'un de grande foi, qui avait la grande foi. C'est dans Matthieu, chapitre 8, à partir de verset 5, je vous lis, c'est l'histoire du centurion. Comme Jésus entra dans Capernaüm, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Voilà donc une histoire très intéressante où un Romain, un centurion, vient voir Jésus pour que le Seigneur guérisse son serviteur qui était malade, couché à la maison et qui était atteint de paralysie. Le contexte, si nous regardons un petit peu le contexte, Jésus avait prêché, ou plutôt il avait prêché le sermon sur la montagne devant beaucoup de personnes. À ce moment-là, il n'avait réalisé aucun miracle. Et en descendant de cette montagne, il rencontre un lépreux qui lui demande de le guérir. À ce moment-là, il y avait une grande foule qui le suivait encore. Et ce lépreux lui demande, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur, tu peux me guérir. » C'est ça, en fait. Alors, Jésus étend la main, le touche et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il a été purifié de sa lèpre. Son corps a été guéri complètement. Je pense que c'était après l'enseignement, cette pratique devait être quelque chose de choquant pour les gens qui le voyaient. Et je pense que ça a dû aussi renforcer leur foi. Cette histoire de guérison se répand. On appelle ça peut-être le téléphone arabe, je pourrais dire ça comme le téléphone juif. Et puis, sûrement, cette histoire s'est répandue et est venue jusqu'aux oreilles de ce centenier. Il avait donc sûrement entendu ce que Jésus avait fait. Et après avoir entendu cette histoire, il a eu la foi que ce Jésus était sûrement quelqu'un d'extraordinaire. Et d'après son enseignement, il devait être vraiment quelqu'un envoyé de Dieu. Et il décide en tout cas de l'interpeller, de lui demander justement pour la guérison de son serviteur. Il avait entendu de ce que Jésus avait fait et il a eu la foi. C'est ça un peu le thème central de ma prédication, de ce matin. Oui, Dieu peut réaliser le miracle. Dieu est Dieu. C'est ce Dieu qui a créé l'univers, qui réalise aussi l'impossible en possible. Tout devient possible avec lui. Et ce centurion a cru en entendant ce que Jésus avait fait. C'est cela la semence de la foi. Si je vais auprès de Dieu, tout ira bien. Est-ce que vous avez ce genre de foi? En tout cas, je pense que ce centurion avait ce genre de foi. Et je dirais que c'est le commencement de notre salut. Alors, qui était ce centurion? On peut remarquer qu'il devait être quelqu'un de très bien. Vous savez, il n'essayait pas d'obtenir quelque chose pour lui, mais pour son serviteur malade. Effectivement, ce n'est pas facile de réagir comme lui. Si c'était quelqu'un de normal, il aurait juste compati pour son serviteur. Il n'aurait pas dépensé autant de temps et d'argent pour l'aider, surtout pour un serviteur. Mais voilà, lui, c'était une bonne personne. D'ailleurs, on voit qui il est vraiment, puisque ses amis le présentent comme quelqu'un de bon, qui mérite d'être exaucé, car il aime la nation juive, et que même il avait aussi bâti leur synagogue. On voit cela dans Luc 7. Alors, la différence entre Luc 7 et Matthieu 8, c'est que dans Matthieu, c'est le centurion qui vient demander à Jésus, mais dans Luc, il y a une précision, en fait, il envoie les anciens des Juifs pour le représenter. Et donc ces anciens des Juifs viennent rejoindre Jésus pour, justement, de la part de ce centurion, demander de l'aide. Et après avoir entendu la demande de la part des anciens, Jésus avait décidé d'aller chez le centurion. Et après avoir entendu que Jésus venait chez lui, ce centurion, de nouveau, il envoie ses amis pour lui dire ainsi. Donc je vous lis à partir de chapitre 7, Luc chapitre 7, versets 6 à 8. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoyait des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et le fait. » Voilà donc jusqu'ici, jusqu'au verset 8. Là, on apprend qu'il ne s'était pas déplacé parce qu'il se sentait pas, c'est pas parce qu'il se sentait supérieur à ce Jésus, mais au contraire, il se sentait pas digne d'aller en personne envers Jésus. On voit l'humilité de la personne. Et donc, quand il avait entendu que Jésus était en train de venir, il s'est dit, non, pas besoin qu'il vienne jusqu'à chez moi. Et puis, il envoie d'autres personnes, ses amis, le rencontrer. Et il lui dit, de la part par ses amis, « Seigneur Jésus, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis juste un mot et mon serviteur sera guéri. » C'était comme une confession de foi. « Oui, tu as toute la puissance, tu es le Fils de Dieu, tu peux tout faire. Donc, dis juste un mot et il sera guéri. » Après avoir entendu cette phrase, Jésus est tout étonné, surpris par sa foi. Au verset 9, il dit, « Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Voilà donc une personne qui avait une grande foi. Regardez le contraste avec Pierre. Pierre était le disciple favori. Il avait marché sur les eaux. Il a mangé, bu avec lui. Mais en un instant, il doute et tombe vers le bas. Et il entend cette phrase, « Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu as eu aussi peu de foi ?» Et il a été blâmé. Alors que ce centurion, ce centenier, lui, il n'avait jamais rencontré Jésus. Il a juste entendu qui il était. Et juste avec cette histoire qu'il a entendue, il a cru. Et il avait la foi que, quoi qu'il arrive, Jésus pouvait guérir son serviteur. Là, on remarque que, vraiment, qu'il avait une grande foi. Je reviens encore auprès de ce Pierre. Il semblait être vraiment bien, un disciple favori. Mais lorsqu'on ouvre vraiment le couvercle, on voit sa foi qui n'est pas stable. Lorsqu'il traverse le désert, lorsqu'il traverse les épreuves. Oui. Et Dieu peut tout voir. Il regarde aussi le cœur, surtout. Comme il a regardé aussi le cœur de ce péager qui est venu au temple pour prier. Ce péager qui se sentait pécheur, il se tenait éloigné, car il se sentait vraiment pécheur et il n'osait même pas lever les yeux au ciel, car comment regarder ce Dieu si saint, alors que lui, il était si pécheur? Et puis il se frappait la poitrine en disant, « Mais Seigneur, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis pécheur. » Alors que le pharisien qui était juste à côté, ou plutôt un peu plus loin, lui, super fier de sa vie, sûrement il a dû prendre la place centrale dans ce temple, et il prie en disant, « Seigneur, à haute voix en plus, Seigneur, je te rends grâce, car je ne suis pas comme ces hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni même comme ce péager. » Il compare avec les autres. Et il disait même, « Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme, etc. etc. » Qui était à la fin justifié? D'après la Bible, c'était ce péager qui n'osait pas regarder le ciel. Oui, Dieu regarde le cœur. Et la vraie foi. Donc je vous disais dans Matthieu 8, 10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Qui ont une grande foi? Ce ne sont pas des personnes qui ont un grand ministère. Mais plutôt ce sont des gens qui ont peut-être connu des échecs, des maladies, qui ont été dans une situation sans espoir, comme ce David qui, vers la fin de sa vie, il connaît un coup d'état de la part de son propre fils. Les gens se moquent de lui en lui disant « Mais où est ton Dieu ?» Mais malgré cette situation de détresse, il n'abandonne pas. Et il loue. Il a la foi que ce Dieu est un bon Dieu, malgré tout. Malgré tout. Oui, Dieu est bon, il ne dort ni somnole. Et la foi, c'est malgré tout avoir une confiance pure. Malgré tout, continuer à lui faire confiance. C'est ça, avoir la grande foi. En ce moment, nous vivons une situation difficile. Difficile économiquement, difficile parce que, voilà, Beaucoup de gens meurent aussi. Même des gens de foi qui meurent. Mais malgré tout, malgré le désert, malgré la désolation, on peut revivre si nous avons la foi en Dieu. Ce centurion, donc, qui n'avait jamais rencontré Jésus, il avait juste entendu, mais il a persévéré. Et je pense qu'il avait cette foi. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, oui. C'est ça la différence entre la grande foi et le peu de foi. Qu'il ne se sentait pas digne de recevoir Jésus. Mais il avait la foi pure, la foi avec beaucoup de confiance et de sincérité. Comment obtenir la foi? Bien sûr, c'est par l'Esprit de Dieu. Dans 1 Corinthiens 12, il est dit que, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse et à l'autre une parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit. La foi par le même Esprit. Que nous puissions vraiment prier davantage dans ce moment difficile pour que le Seigneur nous donne, à travers son Esprit, à travers l'onction de Saint-Esprit, cette foi inébranlable. J'aimerais terminer par un petit témoignage. J'ai entendu ce matin, ou plutôt hier, cette semaine, quelqu'un que je connaissais est décédé par le coronavirus. C'est quelqu'un de mon ancienne église, quelqu'un assez fidèle au Seigneur. Sa vie n'était pas toujours facile, mais voilà, pour son enterrement, il a choisi cette parole. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course et j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. C'est l'apôtre Paul qui dit à Timothée. Oui, nous pouvons même mourir de coronavirus, mais on peut garder la foi pour combattre le bon combat. Oui, nous pouvons terminer la course par la mort, suite à ce coronavirus, mais on peut garder la foi parce que Dieu, ce Dieu, est vivant et qu'il veut justement, il veut que nous ayons cette confiance tout au long de chemin. Il veut que nous ayons cette confiance en notre Seigneur. Parce que il tient ma main, il tient ma main. Même à travers les épreuves, les tempêtes. Parce qu'il me tient la main que je peux être en paix. C'est pour ça que nous pouvons avoir cette confiance en notre Seigneur. Voilà, pour terminer, j'aimerais vous chanter un chant. J'ai confiance en mon Seigneur. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. Dieu m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur est en
en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Viens adorer, peuple racheté, toutes les nations, venez le louer, adorez Jésus, votre Rédempteur, il est précieux, roi de
Bon dimanche à tous.